Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Venez, veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Levant les yeux, il le voit, les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor public, dans le trésor du temple, et il vit aussi une veuve vraiment misérable. Elle y mettait deux petites pièces de monnaie. Alors Jésus déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle, elle a pris sur son indigence, sur son nécessaire. C'est tout ce qu'elle avait qu'elle a mis, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur.
Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Qu'il nous lave de toutes nos fautes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi. Alléluia. 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 Que ton évangile, Seigneur, exhale son parfum, sa lumière vivifiante, comme un manteau sur toute l'orbe de la terre. Qu'elle pénètre en bénédiction palpitante toute chair assoiffée de virginité divine, sainte, éternelle et toute pure. Qu'il puisse voir cela de cette terre s'ouvrir les portes de la Jérusalem d'en haut, libre de toute entrave et lavée de toute faute, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. louange à toi, alléluia, 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 louange à toi, alléluia. La méditation proposée vient d'Adrienne von Speyer. C'est une Suisse, Adrienne von Speyer, une contemporaine, hein, si je puis dire, du XXe siècle. Elle est morte en 1967. Probablement la même année que Padre Pio. Elle était baptisée protestante. Puis, comme elle a vécu la passion, et donc elle a fait l'expérience de la grâce sanctifiante, unifiante. Et du coup, comme c'est une hérésie pour Luther, la grâce sanctifiante n'existe pas. Et la grâce unifiante encore moins. Et donc elle est devenue catholique. La veuve misérable n'a donc pas donné quelque chose qu'on pourrait remplacer. Superflu. Elle a donné le nécessaire. Elle a donné l'irremplaçable. Elle n'a pas donné ce qui est disponible ou en plusieurs exemplaires. Elle a donné l'original, l'unique. Chez nous aussi, le Seigneur regarde ce que nous lui apportons comme offrande. Il n'apprécie pas que nous ne lui donnions que ici ou là, mais quelque chose qui nous est finalement inutile et remplaçable. Nous voulons essayer de donner comme la veuve. Nous voulons faire comme elle, donner l'unique. Donner tout, ce qui ne repousse pas en une nuit. Ce qui ne nous reviendra pas dans un an par quelque opération. Ce qui est un don sans retour. Le don de la veuve a été engrangé dans la réserve apostolique des disciples. Comme une prière entrant dans le trésor du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur a pris le bol parce que il ne rejette aucune prière. Mais il ne la garde pas, il la redonne pour qu'elle trouve son utilisation. Et ce don de la veuve est justement ce que le Seigneur avait attendu. Pour exposer plus profondément à ses disciples son enseignement sur le don. Et sur le sacrifice et l'offrande. Nous non plus, nous ne savons pas dans le détail comment le Seigneur utilisera le don de tout nous-mêmes et de tout notre nécessaire. Mais si c'est un tout, si c'est vraiment tout, nous pouvons être sûrs qu'il l'emploiera comme il emploie tout sacrifice du Fils unique de Dieu. Qu'il lui s'offre en entier, donne tout ce qu'il a, ce qu'il est. Et fort de cette certitude, nous ne voulons pas mesurer chichement notre sacrifice. Nous voulons être ceux qui donnent d'une manière telle que le Seigneur puisse dire Elle a donné son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qu'elle possédait, tout. Elle a tout donné. La parole de Dieu fait notre délice, le délice de notre cœur est liquéfié de délices. Lorsque nous dévorons la parole de Dieu, Jésus lève les yeux et voit la veuve. Dès que Saint Joseph s'est endormi et est descendu aux enfers, Marie est veuve et elle descend. Jusque-là, à chaque fois que Marie passait en donnant tout, toute sa vie, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle était, tous les trésors que Dieu lui avait donnés, tous ses privilèges, toutes ses plénitudes de grâce. Quand Saint-Joseph s'est endormi, qui est descendu aux enfers, il n'était plus là. Il passait toujours par Saint-Joseph pour rentrer dans l'époux agréé, qu'il l'assumait comme dans sa maternité divine. Et donc sa maternité divine lui échappe à la mort de Joseph, parce que Dieu le Père lui échappe dans son quotidien. Elle est la veuve qui rentre dans le temple, c'est-à-dire dans la paternité agréée de Dieu. Et désormais, elle donne tout ce qu'elle a, et sa plénitude de grâce, son immaculée conception, sa sponsalité. Quand Jésus voit la veuve dans le temple, évidemment que c'est Marie qui le désigne, qu'il voit, qui lui fait lever les yeux vers le ciel. Curieux que Jésus lève les yeux vers le ciel et voit la veuve. Dans le Père, il voit celle qui, dans le temple, c'est-à-dire la maison du Père, il voit celle qui donne tout et son strict nécessaire. Il a chassé les vendeurs du temple la veille et puis le jour qui vient ensuite, c'est tellement immaculé en temple. Jésus a purifié le temple. Le Saint des Saints, extraordinaire. La paternité dévastée de son père, c'est la maison de mon père, c'est le temple de mon père. Et il voit la veuve qui donne tout. La grâce de Marie est une grâce d'amour et de don qui dépasse tout parce que ça relève d'une miséricorde prévenante. Jésus a nettoyé le temple, voilà pour Saint Joseph. Pour que Marie puisse être dans ces deux trésors d'Immaculée Conception et Mère Divine, pour le temps et pour l'éternité. Ces deux piécettes, elle les dépose aussitôt. Et elle ne garde rien pour elle, elle ne regarde même pas ce qu'elle est. Ce n'est pas à elle. Marie ne s'est jamais regardée elle-même. Pas dire non plus qu'elle faisait sa route comme ça, dans l'ignorance, elle savait ce qu'elle était, mais elle ne s'est jamais regardée. Jamais. Elle a toujours été vers le Père. Jésus, ça c'est bandeur du temple, ça c'est Saint-Joseph. Et du coup, l'Immaculée Conception est là. Et du coup, l'Immaculée Conception là émane. Et aussitôt qu'elle dit oui, me voici, le me voici de Marie, Jésus reconnaît son je me voici à lui, pour vers la volonté éternelle du Père, c'est-à-dire que je donne tout sur la croix, tout dans l'union hypostatique déchirée. Et il y a deux piécettes parce que il y a tout ce qu'elle donne et il y a tout ce qui sera donné. Elle donne tout ce qu'elle est dans le temps. Elle donne tout ce qu'elle est dans l'éternité. Elle ne garde strictement rien. pour elle, comme Jésus d'ailleurs. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, cette révélation, fait les délices de notre cœur. Notre cœur est en délices quand on voit l'amour fou que Jésus voit et dont il se noie pour pouvoir aller avec elle, j'allais dire, dans le don substantiel de lui-même. C'est les deux piécettes, c'est ça. Les deux piécettes, c'est l'union hypostatique déchirée. Et c'est la transverbération immaculée. C'est les deux offrandes qui sont faites à l'Église, qui sont faites à travers l'Église, à l'amour, au sein d'amour éternel de son Père. Et l'amour qu'il y a dans Jésus quand il voit cette veuve, quand il contemple Marie, il contemple sa propre la veuve. C'est extraordinaire. Par la sponsalité, vous savez, l'épouse s'est tellement donnée qu'elle n'a plus rien. L'époux aussi, hein. Mais si l'époux disparaît, maintenant c'est différent. Il y a des assurances, il y a des... T'as la retraite de ta moitié sponsale. Mais c'est différent maintenant. Mais à l'époque, c'est vrai, normalement, c'est pas là. L'époux meurt, et c'est fini, t'as plus rien. Tout ce que tu avais donné n'existe plus. Et tu avais tout donné, hein. On voit ça, hein, dans le livre de Ruth, de Pause, Rémi. Plus rien. Quand Saint Joseph est mort, vous voyez, dans les mystères du rosaire, il n'y a pas la mort. La mort de Joseph, elle n'est pas dans les mystères du rosaire. C'est dommage. Joseph est descendu aux enfers. L'époux de l'Immaculée Conception. Lui qui spire, qui, de l'intérieur, la substance même de la nature divine du Père. Et c'est sa nourriture, c'est sa respiration. Vous voyez, l'intérêt que nous avions à dire Ave Maria un très grand nombre de fois, c'est quoi? C'est que si nous faisons cela, c'est parce que à chaque respiration, Salut Marie, pleine de grâce, Seigneur, avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et vous êtes entrée bénie. Et à chaque expiration, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour notre mort. Si je fais ça 1000 fois de suite, à chaque respiration, expiration, je le fais 1000 fois, qui est le chiffre de l'Immaculée Conception qui dit oui. À ce fait que Dieu donne tout dans la sponsalité, ne garde rien pour lui. Dans l'amour, il ne garde rien pour lui. Dans la fécondité, il ne garde rien pour lui. Dans l'éternité, il ne garde rien pour lui. Elle aurait pu, bien sûr, l'Immaculée Conception avec sa liberté, tous les trésors, la plénitude de tous les trésors de Dieu était dès le départ, lucidement en elle. Elle pouvait en disposer librement, hein. 9 mois avant la naissance. Nous, c'est difficile de comprendre ça pour nous parce qu'il y a eu le péché originel. Et les séquelles font que cette rétention, cette liberté de donner n'y est pas. N'y est plus. Une espèce de mécanisme de défense pour la sécurité. Est-ce que vous pensez que Marie s'est défendue? Elle ne s'est jamais défendue, elle n'avait rien à défendre, elle avait tout donné.
qu'elle était libre. Cette liberté, elle l'avait, puisqu'elle est l'immaculée conception. Donc, péché originel n'inscrit pas en lui ses mécanismes, en elle ses mécanismes de défense. Et dès le départ, en plénitude de lucidité, de liberté, d'amour et de don, dans la plénitude du don, dans la liberté du don, comme dit le pape Jean-Paul II, dans la liberté du don de Marie, c'est-à-dire dans son origine. Bien avant sa naissance, le mystère de compassion est total. Dès la première fois que, dans le principe même de l'existence, une créature humaine vit l'union hypostatique déchirée, c'est-à-dire vit la crucifixion de soi-même substantiellement, c'est Marie, la première fois et sans doute la dernière fois, la seule fois où un enfant tout petit, à l'instant même où il commence à exister, utilise la plénitude de sa liberté dans le don pour vivre dès le départ, crucifié, immolé, d'amour, victime substantielle, en plénitude d'amour, plénitude victimale d'amour. C'est extraordinaire, hein, de comprendre le mystère de l'Immaculée Conception. Il est sorti avec la goutte d'or. Il est sorti avec la goutte de sang. Dès qu'il y a eu le coup de lance, il est sorti cette goutte d'eau. Et cette goutte de sang. Qui est cette liberté de Marie, quoi. Qui dans la grâce sanctifiante, de plénitude, dans laquelle elle est créée comme Immaculée Conception, s'exprime de manière telle qu'elle donne tout en se rendant à fond et en redonnant dans la liberté du don, dans la chance de la paix du don. En faire de Dieu, elle possède et à la paternité créatrice de Dieu, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, en abandonnant tout pour Dieu et pour toute la création. Et elle l'a fait lucidement. Hein. Voilà ce que Jésus regarde. Lorsqu'il contemple la veuve et ses deux piécettes dans le temple. Elle a dit oui. Alors, elle aurait pu vivre avec une sainteté. Ça aurait été magnifique d'ailleurs. Ça aurait été magnifique que Marie vive le capital de sa grâce de sainteté en plénitude, d'accord ? Dès son Immaculée Conception, non pas la gardant pour elle, mais parce que la charité veut qu'on fasse quand même ça tout pour les autres, avec les autres, en communion avec les autres, mais sans tout donner, voyez ce que je veux dire, sans être crucifié, avec un petit peu quelque chose en dehors de son mystère de compassion. Mystère de compassion, c'est je vis de la croix substantiellement, la croix substantielle, glorieuse, en plénitude actuelle, en pleine énergie, dans l'intégrité de tout ce qui existe, c'est l'Immaculée Conception. Et c'est elle qui, en tout donné, est assumée par Dieu pour le Père, pour être à la mort de Joseph. Il y a eu quelque chose. Le jour du mariage avec Joseph, il y a eu quelque chose. La semaine du mariage. À la mort de Joseph, il y a eu encore quelque chose qui a été assumé en elle. À la mort de Jésus sur la croix, il y a encore eu quelque chose qui a été assumé en elle en tant que veuve. Comme disait le pape Benoît XVI, on n'aura jamais fini de parler de la responsabilité à propos de Marie dans les siècles qui viennent. dans les siècles et les siècles qui viennent, on n'aura jamais fini de parler de la responsabilité au mari. Entre Joseph et elle, c'est la veuve. C'est la veuve. Et c'est beau ça, contempler le mystère de compassion de Marie. Il a commencé dans son Immaculée Conception. Tout de suite, elle a dit, j'épouse immédiatement l'amour du Père, parce que ce mouvement, dès que se met en branle la liberté d'action de grâce, et dont tout soi-même, dans le retour vers le Père, elle a fait dans le premier instant, pas la seconde, ou les trois secondes qui ont suivi, tout de suite, spontanément. Eh bien ça, elle le doit à son époux. D'avoir pu faire ça, elle le doit à son époux. 19 ans de mariage spirituel accompli et parfait dans son époux ont permis à cette tarte de mort d'être assumée dans l'inspiration de la substance même de Dieu éternel, dans la paternité incréée de Dieu. Et cette assumption a permis que l'Immaculée Conception soit créée dans la responsabilité transfigurée de la terre. Elle doit son époux, elle est sortie de son époux comme épouse. Et aussitôt, il y a le retour dans la responsabilité. C'est le retour et l'échange et l'accueil du don. Aussitôt, il n'y a pas une petite hésitation. Tiens, je vais attendre un petit peu pour moi de jouir du don de l'autre. Non, 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 non. Sans attendre une seule seconde. Immédiatement, il y a l'échange et l'accueil du don sans retenue. Marie tout de suite rentrée dans celui dont elle était la source et en même temps dans la paternité de l'époux. Voilà les deux piécettes, les deux faces de sa responsabilité. Inspirator substantia personae patris substantia divina. Et elle a dit, voyez comment on dit, nous vivons du fiat éternel. Nous voulons rentrer dans le fiat éternel de la volonté éternelle de Dieu. Nous voulons rentrer dans la volonté éternelle de Dieu. Nous voulons abandonner notre volonté humaine, non pas la détruire, mais l'abandonner, la donner en amour, dans un abandon total. J'abandonne ma volonté humaine. La volonté humaine de Marie est quelque chose d'extraordinaire. Puisque toutes les volontés humaines brûlées par la sainteté de la charité au maximum, c'est sa volonté humaine. À elle, eh bien, elle renonce. Parce qu'il y a de plus saint, de plus pur, de plus plénitude, de plus immaculé dans la sainteté, de charité divine en elle, elle y renonce. Elle y renonce pas, elle le donne. Jésus, la sainteté de Jésus. Est-ce qu'il y a une sainteté de Jésus plus grande qu'on puisse imaginer dans sa grâce capitale et la domaine glorieux de sa nature humaine? Eh bien, il a donné cela. Il ne l'a pas pris pour lui. Il l'a aussitôt offerte, engloutie dans la volonté éternelle du Père. Et non pas dans sa volonté de Fils, de Dieu le Fils, mais dans la volonté de Dieu le Père. De manière que le mystère de la lumière de gloire n'envahisse pas ni sa chair, ni son sang, ni son âme, ni son esprit humain. Ni sa grâce capitale, ni sa grâce diffusée. Mais que toutes ces grâces et toutes ces natures qui lui appartiennent en propre soient entièrement et immédiatement envahies par le mystère de la croix. Par la nuit, par la souffrance, par la mort, par on peut dire l'agonie, le tourment, la flagellation, l'écrasement, la rédemption. Aussitôt, aussitôt, Jésus a tout donné. Est-ce qu'il il a donné ce qu'il y a de plus pur, de plus parfait, de plus charité, de plus amour, de plus accompli, de plus glorieux dans la lumière de l'amour. Ça appartenait à sa nature humaine. Il était dans la lumière glorieux en sa nature humaine. Eh bien, aussitôt, dès le premier instant, c'est ce qu'on appelle, faites ceci en mémoire de moi, aussitôt, dans sa mémoire de Dieu, sa nature humaine, librement donne tout au Père pour qu'il n'y ait que la volonté éternelle du Père, c'est-à-dire la sagesse de la croix, qui prenne la place vacante. Sinon, on aurait eu, vous voyez, un Christ ressuscité dès le départ, si vous voulez. Hein? Le Christ ressuscité des 40 jours après, avant l'ascension. Ça aurait pu être ça, Jésus aurait pu être le Christ ressuscité de l'ascension et puis disparaître dans une mort d'amour à l'ascension. Puis voilà, il nous aurait sauvés comme ça. C'était possible. Et ça aurait été une véritable incarnation du Seigneur, une véritable rédemption. Eh ben non. Pourquoi est-ce que Jésus a dit je fais dire oui à la volonté éternelle du Père, et la volonté éternelle du Père, c'est la sagesse de la croix, parce que Marie avait déposé dans le temple, à la mort de Joseph, tout ce qu'elle avait, dès le premier instant de sa conception, dans le temple du Père. Et comme elle était sa mère, eh bien, il n'a pas pu faire moins que sa mère. Et donc il est rentré dans le fiat éternel de Marie, qui a pénétré dans le temple de la substance de la nature divine incréée du Père, pour être la mère du Verbe incarné. Pour vous faire comprendre une chose, pour que nous comprenions cela, Dieu regarde son peuple, Dieu nous regarde, Dieu nous aime. Le Père nous aime. Personne ne l'aime à Jésus si le Père ne l'aime pas, si le Père ne l'attire pas. Prenons par exemple l'exemple d'Abraham. Abraham, c'est... Tu ne peux pas faire plus d'amour d'un père pour son fils qu'Abraham avec Isaac. Il préfère être torturé mille fois, mourir mille fois plutôt que de voir son fils disparaître. Et Dieu, l'ange, lui demande de sacrifier lui-même son fils. Il a mis 90 ans de prière et Dieu accède à tous ses désirs en lui donnant un fils à l'âge de 90 ans. Et il l'aime. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de 90 ans? Vous savez, quand on a 50 ans, on peut aimer beaucoup, hein. 3 personnes différentes par an. Un petit cœur d'artichaut, tu vois, tu passes ça, je n'aime qu'elle. Ah, je n'aime qu'elle. 6 mois après, c'est quelqu'un d'autre. D'abord c'est Laurence, puis après c'est Valérie. Puis, 50 ans, ça peut se faire, ça. Pourquoi? Parce qu'on est cinglé, ça c'est autre chose. C'est vrai, on a une bicyclette sans rayon, quoi, donc ça va, c'est normal, donc la roue marche en carré, quoi. C'est sûr, c'est ça. Mais Abraham, 90 ans, une personne de 90 ans, tout le monde le sait, elle s'attache à la personne qui est avec elle, à l'âge de 90 ans, d'une manière inouïe, quoi. À 90 ans, tout le monde le sait, on est très dépendant de la personne qu'on aime et qui vit avec nous. Il y a une espèce d'amour très spécial quand on est Abraham. Sa paternité s'est exprimée et son cœur, comme dit l'Écriture, était collé à son fils. C'est parfaitement identifié. Je me rappelle de mon papa. Mon papa, c'est une anecdote, hein. Mais ça m'a frappé parce que je n'imaginais pas que ce soit possible. J'étais ordonné prêtre et puis quelques années après, on va à l'enterrement de quelqu'un qui nous est extrêmement proche. Qui nous a été extrêmement proche dans la famille, mais pendant 30 ans. Extrêmement, mais vraiment extrêmement. Et puis il est mort. Et comme prêtre, les enfants de cet homme et son épouse m'ont demandé d'être dans les bancs des fidèles. Ils ne voulaient pas me voir à l'hôtel. Ils ne voulaient pas me voir qu'on célébrait, même pas qu'on célébrait. J'ai eu l'autorisation d'être avec les chiens, derrière les bancs. Et j'ai communié avec la fille l'an dernier. Mon père a vu ça. Mon père a vu ça pendant des mois et des mois. La nuit, ma mère m'a dit, se réveiller la nuit. Et c'est un cauchemar. Et elle entendait dire avant de se réveiller, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que je célèbre pour René? Et il pleurait. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Le cœur du père s'assimile à celui du fils, est collé à son fils, il est identifié au fils, ça va. Surtout hein, quand il est vieux. Quand Dieu voit Abraham, hein, et depuis ça l'a tué, hein. Un cancer s'est développé, ne m'a pas été mort. Simple histoire d'enterrement. Quand Dieu voit Abraham, et qu'Abraham est capable, par la foi, de sacrifier son propre fils, Dieu regarde Abraham et dit ce que l'homme a fait. Par la foi, moi je ne le ferai pas. Ce que l'homme fait par la foi, sans voir, moi je ne le ferai pas. Alors que je vois. Et c'est pour ça que la volonté éternelle du Père, lorsqu'il voit la création et la foi, ne peut pas faire autrement que d'exprimer sa volonté éternelle d'amour dans la sagesse de la croix. Mais Jésus, il aurait très très bien pu nous sauver, tous, sans la croix. Hein. Je vous dis, plénitude de lumière de gloire, ce serait caché aux yeux des hommes, mais... Comme quand il était ressuscité, après tout, mais oui, prenez vos mains, touchez, vous verrez, c'est bien moi. Mange le poisson, nature humaine parfaite, tout à l'heure là, et il nous aurait sauvés. Saint Thomas d'Aquin, il dit, un simple sourire à Jésus aurait pu sauver tous les hommes. Alors pourquoi le mystère de la compassion? Pourquoi le mystère de la croix? Vous voyez, quand on donne les deux piécettes dans le temple du Père, voilà ce que Jésus regarde. Et du coup, ça lui donne une jubilation éternelle. En vérité, je vous le dis, à chaque fois que Jésus dit en vérité, je vous le dis, il exprime une jubilation dans son hypostase éternelle et agréée. Dans ce qu'il regarde, touche son hypostase éternelle et agréée dans la lumière de gloire de sa vision béatifique. C'est pour ça que la parole de Dieu, quand on la lit, fait le délice de notre cœur divin. Notre cœur humain est sec, mais notre cœur divin, oui, c'est délicieux. Hein. Elle nourrit notre raison et notre transformation. Vous comprenez pourquoi il ne faut plus aucun mouvement, même des dents, dans l'oraison. Ah, j'avais quelqu'un au noviciat. Il y avait un frère noviciat, pendant l'oraison, on faisait oraison toujours tous ensemble. Alors il y avait un frère qui se cassait un ongle au début de l'oraison et le mettait entre ses dents. Et pendant une demi-heure, on entendait, clac, le bout de l'ongle entre ses dents. Il le cassait, je sais pas, il devait avoir des dents assez longues parce que ça durait une demi-heure quand même. On entendait clac, clac. Ha 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 ha. tout donné. Hein. Pas aucun mouvement venant de notre volonté humaine séparée de la mort de l'union hypostatique ouverte de notre Seigneur Jésus-Christ dans le mystère de compassion de Marie, qui elle est morte depuis son immaculée conception. Elle est morte puisqu'elle a donné tout ce qu'elle est pour l'éternité du Père et pour tous les hommes qu'il crée. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule immaculée conception. Parce que tout ce qu'elle a donné, c'est pour nous. Elle est notre mère. Eh bien, quand Dieu, dans son respect tout sacré de Verbe de Dieu, à l'intérieur de la foi de Marie, saisit la matière vivante, staminale, responsable, qui est en elle, dans son sang, eh bien, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire moins que elle. Et il dit comme elle, il dit fiat, éternellement. Et il abandonne sa volonté éternelle d'épousa, c'est-à-dire de fils. Il est le Dieu Tout-Puissant quand même. Il abandonne sa volonté d'amour éternel de Dieu. Et aussi sa volonté éternelle humaine apparaissante des deux piécettes. Immédiatement, pour rentrer dans la divine volonté du Père qui est la sagesse de la croix. Il est bien évident que plus on s'approche des derniers sceaux de l'Apocalypse, plus on s'approche de ce secret extraordinaire des sceaux de l'Apocalypse. Le secret, c'est l'agneau. L'agneau, c'est cette béance gigantesque d'amour. Ces portes ouvertes sur le divin créé de l'amour sublime. Un créé éternel reproduisant toujours. Parce qu'à chaque fois, dans l'échange de l'accueil et don de la mort et de l'expiration d'amour, dans l'aspiration incréée, à chaque fois, une reprise, bien sûr. Grâce à l'émanation du Saint-Esprit, qui redonne un amour toujours plus profond, toujours plus substantiel, non pas quantitativement, mais du point de vue de l'éternité. L'instant éternel est en sans arrêt actué. Et pour nous faire rentrer précisément à l'intérieur de Dieu en lui-même, sans voile, directement. C'est beaucoup plus de la lumière de gloire, vous comprenez. Eh bien, il faut la sagesse de la croix. Il faut la volonté divine éternelle du Père. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Bon, l'évangile d'aujourd'hui, attention. Si un jour, de manière concrète, pratique, il y a quelque chose qui vous dérange beaucoup, qui vous révolte, et ma foi, on est sur la terre. Mon mari m'a abandonné parce que, alors que j'ai tout fait, toujours, tout, sans arrêt, tout pour lui. Alléluia. Quelque chose qui vous révolte profondément, voyez. Vous avez fait une œuvre magnifique pour le bon Dieu. C'est vraiment Saint-Esprit, hein, c'est vraiment, c'est pas fou, hein, c'est Saint-Esprit, c'est Marie, c'est le ciel qui vraiment a fait ça. Allez, pendant 20 ans, ça ne s'est pas arrêté. Vous avez été fidèle, vous avez abandonné tout, vous avez tout fait. Et puis tout ça est massacré en quelques heures. Par quelqu'un qui vous aime énormément. Puis en fait, est jaloux de Dieu. Eh bien, vous mettez votre volonté humaine toute sainte, toute pure, toute immaculée qu'elle soit, même si c'est au mariage spirituel, et surtout si vous êtes dans le mariage spirituel, vous remettez tout. Et vous dites à la divine volonté de prendre le relais. Et non pas votre volonté humaine. Et c'est votre divine, la volonté éternelle du Père, qui doit prendre le relais de tout. dans l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Il faut s'entraîner à ça, dans les petites choses, mais aussi dans les grandes. Et la petite Vierge, elle fait ça avec des petites piécettes. Et oui, il faut laisser revisiter la toute petitesse de notre conception. Il faut que Dieu vienne revisiter dans la volonté éternelle du Père notre toute petitesse. Là, on était le plus petit, et en même temps, ce petit point tout petit qui est le nôtre dans la liberté du don, dans la totale liberté substantielle du don, la parfaite spirituelle lumière, le parfait amour humain en nous déployé, se déployant dans ce même, se dire, voici, je viens faire ta volonté. Et en même temps qu'il y a cette extase, ce ravissement qui va jusqu'au bout de Dieu et de l'univers qui est devant nous, aussitôt en même temps, propagation du péché originel sur nous, pour qu'on puisse recommencer dans la sagesse de la croix, ce chemin, ce fiat éternel dans la volonté éternelle du Père, à travers le mystère de la croix. Cette petitesse-là, qui est la petitesse la plus puissante que toutes les grandeurs de la sainteté humaine qui viendra par la suite. La plus puissante du point de vue de la liberté du temps. Faites ceci en mémoire de moi. À la racine de nous-mêmes, il faut laisser notre conception, laisser Dieu visiter, revisiter Jésus dans l'Eucharistie, dans l'absolution, dans l'oraison, visiter notre conception. Et nous introduire comme quand si on se glissait à l'intérieur d'un lit bien chaud, on se glisse dans la volonté éternelle d'amour du Père. Et on laisse notre volonté humaine, si parfaite qu'elle soit, on y renonce. Combien de fois je vous l'avez entendu cela, mais c'est quoi la première parole que Jésus a prononcée sur la terre, dans son humanité? Le premier mot, hein? Ça, quand vous avez des gens comme ça, des enfants, des partages d'évangiles, vous voyez, avec des gens très théologiens qui ont lu saint Thomas, saint Augustin, Ourson de Balthazar, etc. Tout ça. Posez-leur deux questions. Quelle est la dernière parole de Jésus sur la terre? Et retournez vers le Père. La dernière parole que Jésus a prononcée. Et quelle est sa première parole, d'après l'Écriture, attention, d'après l'Écriture, d'après l'Évangile. Quelle est la première parole que Jésus a prononcée? Quel est le premier mot qui est sorti de sa bouche? Quelle est la première parole que Jésus a prononcée dans sa nature humaine? Quelle est la dernière parole que Jésus a laissée à la terre à la fin de sa vie, sur la terre, à la fin de son pèlerinage? Vous verrez qu'il y a pratiquement personne ne le sait. C'est quand même Jésus. Les paroles les plus importantes, quand vous aimez quelqu'un, c'est la première parole qu'il vous a dit, la première rencontre, et puis s'il meurt, son testament, sa dernière parole. Eh bien, vous verrez que, vous constaterez que les chrétiens qui croient profondément en Jésus, qui l'aiment énormément, qui l'adorent dans le Saint-Sacrement, ne savent pas quelle est sa première et quelle est la dernière parole de sa vie, dans sa nature humaine. Vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit tellement souvent. Dans l'épître aux Hébreux, sa première parole. Tu le sais, toi? Ah, vous voyez la preuve? Le plus savant d'entre nous ne le sait pas. Tu le sais, toi?
Je vais mal le dire, mais c'est
Shema. Oui.
Shema.
racine même. Chemin, écoute. Non, c'est pas chemin. Ah non, faut pas. Si tu, non, si vous soufflez, non mais. Chemin, ça veut dire écoute. C'est la première parole qu'il a prononcée de ses lèvres, enfant, oui. Non, la première parole, d'après l'épître aux Hébreux, que Jésus a dit. Épître aux Hébreux, si vous voulez, on peut vous acheter une Bible. Allez, l'ancien, 80 ans de vie chrétienne.
Oui, non. Oui.
Quelle est la première parole que Jésus a prononcée d'après l'épître aux Hébreux? Pardon? La première fois qu'il a dit quelque chose. Hein?
Je sais pas.
Donc 80 ans de chrétien, ça ne toujours pas quand ça. Ah, très bien. Bon, allez. Allez. Alors, les modérateurs du forum qui modèrent la doctrine infaillible. Alors, les modérateurs. Jean-Philippe, qui est la première parole, ça, c'est ça.
Je vois pas.
Hein?
Je vois pas.
Alors là, ça me fait de la peine, parce que tu m'as entendu le dire bien des fois, quand même. Jean-Marc, c'est quoi la première parole de Jésus sur la terre? Tu sais pas. Vous voyez, je l'avais dit. Claude. Quelle est la dernière parole de Jésus à la fin de sa vie?
Père, je remets mon esprit.
Oui, tout est consommé.
Tout est consommé.
Tout est consommé, oui.
Tout est consommé. C'est la dernière parole.
Je remets mon esprit en toi.
En toi.
Père, je remets.
Ah, c'est la dernière parole.
Oui.
La dernière parole.
Condamné. Ceux qui ne seront pas baptisés seront condamnés.
Non, je remets mon esprit en toi.
Pardon?
Je remets mes. Père, je remets mon esprit en toi.
Bon, est-ce que quelqu'un a une autre idée? J'ai soif.
Non,
tout est consommé. Non, alors la dernière parole, c'est 50 jours plus tard. Il était avec ses disciples. Il est monté sur le mont des Oliviers. Il a dit, allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ayant dit ces paroles. Il se souleva, épître de Saint-Marc, et il disparut à leurs yeux.
Je pensais avant sa mort.
Mais est-ce que tu penses, c'est pas la question, la question c'est quelles sont les dernières paroles qui ont été entendues de Jésus?
Oui, il a parlé aussi à sa mère.
Allez dans le monde entier,
oui, il a parlé
dans la création toute entière, et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon, attention, maintenant la première épître aux Hébreux. Et après, vous faites le joint entre les deux, la dernière, Alpha et l'Oméga.
Hein? Maman, il n'a pas dit maman.
Imma, on dirait en hébreu. Est-ce qu'il a dit Imma? Non, il n'a pas dit Imma. Épître aux Hébreux. En venant ce monde, le Christ a dit, me voici pour faire ta volonté. 9 mois avant la naissance, dans son immaculée conception, dans sa mémoria dei, dans l'apparition, son apparition à l'intérieur de la nature humaine, il a dit, me voici, je viens faire ta volonté, la volonté de la sagesse crucifiée, la sagesse de la croix. Me voici, chemin, il a dit. Et c'est quoi, c'est pas chemin. Chemin, c'est écoute. Chemin, c'est me voici. Pourquoi? Parce que Shem, Shin, Meim, en hébreu, ça veut dire en même temps écoute du côté de la créature, et ça veut dire celui qui est écouté, le nom de Dieu, Shem, Elohim, le nom de Dieu. Et si je multiplie le Meim, à ce moment-là, je suis dans la fécondité de la rencontre du chemin et du Shem. Alors à ce moment-là, c'est me voici, je m'aime, pour faire ta volonté. Dans le premier instant, Jésus a tout donné, et sa volonté divine a créé, puisqu'il est Dieu tout-puissant, et c'est la volonté incréée du Père qu'il va faire dans la sagesse de la croix, et sa volonté humaine absolument parfaite dans sa grâce capitale, son union hypostatique et sa lumière de gloire. les deux piécettes dans le temple, dans le diamant dont parle Sainte Thérèse d'Avila. Me voici pour faire ta volonté. C'est très important pour votre oraison, parce que passer comme ça, comme un cyclas, voyez, oraison, faites ces deux paroles comme ça, en visitant votre conception, et puis enfin votre mort éternelle. Passez de l'un à l'autre et conjoignez l'un à l'autre dans l'inscription du livre de la vie éternelle. Et vous allez voir que tout le reste de votre vie entre les deux est donné facilement. Et qu'il n'y a plus aucun mouvement venant de vous dans le temps de votre volonté sainte. Parce que tout ce qui est votre volonté sainte, c'est... Et vous ferez la différence entre vous et la mystique de la sainteté chrétienne parfaite de l'Antéchrist. L'Antéchrist, comme dit saint Albert le Grand, vous n'aura jamais trouvé quelqu'un qui connaissent qui ait plus de délices dans les saintes écritures révélées que lui. Personne, jamais, sur toute la terre. La sainteté chrétienne, sans le mystère de la croix, à cause de Marie, n'est rien de la foi d'Abraham, de la foi de Marie. Et il va évacuer, bien sûr, la Memoria Dei, c'est évident. Et il va évacuer, bien sûr, aussi, le baptême de la création tout entière. C'est-à-dire les fins dernières. Mais tout le reste, la sainteté chrétienne parfaite, la charité parfaite, il l'aura. Mais l'humilité substantielle parfaite du roi de France, il ne l'aura pas. L'humilité quasi incréée du roi, du grand monarque, du saint de la terre, celui que la femme met au monde dans les douleurs de l'enfantement. Et le dragon est là, prêt à dévorer l'enfant mâle qu'elle va faire, qu'elle va mettre au monde. Hein? Le fameux troisième signe de l'Apocalypse. Le troisième mystère. Des mystères lumineux du monde nouveau que nous avons célébré hier dans les mille AVA. Oui, Ave Maria. Non, Catinora Mortis Nostrae. Je vous assure. Ave Maria. Catinora Mortis Nostrae. Le début et la fin. Ave Maria. Catinora Mortis Nostrae. L'alpha et l'oméga. Les deux piécettes. C'est là où on est le plus fragile, le plus petit. Et en même temps, la toute puissance de Dieu peut se manifester. Avec la puissance de l'éternité elle-même, sans limite et sans fin. Faites ça mille fois, je vous assure. Prenez un chapelet dans la main. Ave Maria. Pour que le sens du toucher, que ce ne soit pas métapsychique, d'accord, que ce ne soit pas un pranayama, un mantra. Ave Maria. Pendant cette dizaine-là, vous êtes du coup libre de contempler avec votre intellect agent et votre cœur spirituel la liberté du don originel qui est la vôtre dans le mystère que vous contemplez du rosaire. Et passer d'un rosaire comme ça à un autre dans les 40 mystères du rosaire du monde nouveau. Vous aurez dit 40 mystères du rosaire en moins d'une heure. Restez ensuite 20 minutes tranquille. Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul mouvement dans votre raison. Je serais très étonné. Si ça vous arrive, venez me voir. Écrivez-nous. Vous nous intéressez. Je vous demande pardon si je vous ai blessé, si... Je pardonne toi aussi. Hein. Non, regarde là, c'est bien rien, tu vois, sur l'autel. C'est l'autel qui me lève. Nous baptisons encore un enfant aujourd'hui, si vous voulez bien. Il s'appelle Édouard. Je pénètre dans son âme avec vous. Et je pénètre. Et je produis la forme divine de Jésus dans son âme, dans la lumière sénateur de la foi qu'il proclame. Crois en Dieu, Père de puissance, Créateur des cieux et de la terre, à Jésus-Christ, son Fils qui est notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur le pont Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vole, vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe, vole, 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 vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe, vole, vole, vole. Fontaine cristalline, dans le miroir de tes eaux argentées. Si tu me laissais voir les yeux que sans fin je cherche, que je garde, poche dans mon âme. Tire le voile, mon bien-aimé, garde-les. Car voici que j'entends les possèdes. Vole, vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe, vole, 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 vole de ce colombe, vole de ce colombe, vole, vole. Vole, vole de ce colombe, vole, vole de ce colombe, vole, 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 vole. Viens, ma colombe, épousée. Viens, ma colombe, épousée, ma colombe. Viens, ma colombe. Car voici le cerf blessé. Savourant la brise fraîche de ton vol, vole, vole,
Prions ensemble dans ce vol, comme celle qui vole dans le creux du rocher.